Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
On se plaint souvent en France de la déchristianisation et pourtant, en cherchant un peu, ne serait-ce que dans la capitale de l'Occitanie, l'on trouve des perles, des communautés religieuses où les sœurs, certes, ne se comptent pas par centaines, mais qui sont de vrais îlots de fraîcheur. Les sœurs de la communauté du Cénacle en sont un, congrégation religieuse fondée au 19e siècle avec une fondatrice devenue sainte et très en avance sur son temps. Ces sœurs ont comme spécialité, l'on peut dire, le discernement des esprits, un gros mot pour dire l'art et la manière de savoir reconnaître l'action de Dieu dans nos vies. À la découverte des sœurs du Cénacle, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau donc Nathalie Albert, religieuse de la communauté des sœurs de Notre-Dame du Cénacle. Bonjour.
Bonjour.
Elisabeth Rouanet, vous êtes membre de la fraternité du Cénacle. Bonjour.
Bonjour.
Et Christine Garrigue, vous êtes une amie et collaboratrice de la communauté. Bonjour.
Bonjour, Hervé.
Merci beaucoup d'être venu ce matin donc au micro de Vivante Église. On va partir à la découverte donc des sœurs du Cénacle, ou plus précisément des sœurs de Notre-Dame du Cénacle. La première chose à faire, peut-être, ça vous va quand je dis un îlot de fraîcheur ? Vous faites partie quand même des religieuses qui sont fort sympathiques. Je ne dis pas qu'il y en a qui sont antipathiques, mais vous êtes particulièrement sympathiques. Bref, je vous fais un compliment, vous n'allez pas me dire si j'ai raison ou pas. Mais îlot de fraîcheur, ça vous va comme introduction ?
Ça me va très très bien. J'ai souri quand vous l'avez dit.
Bon. Alors, les sœurs du Cénacle, il y en a un peu partout dans le monde. Il y en a en France et il y en a donc à Toulouse. Et donc, on se penche un peu, comme je le disais en introduction, on vous trouve. On découvrira peut-être au long de l'émission où est-ce que vous êtes exactement. On se disait que le mieux, c'était de parler un peu de l'aventure des sœurs du Cénacle et de parler de votre fondatrice. Alors, elle s'appelle Sainte Thérèse Couderque. C'est une religieuse du 19e siècle et qui, alors comme toute sainte, a une vie quand même assez frappante. Je citerai deux, trois exemples. Elle est supérieure à l'âge de 23 ans. Elle se met à prêcher des retraites selon la spiritualité ignatienne. Je disais qu'elle était très en avance sur son temps. J'imagine que ce n'était pas si fréquent peut-être que des religieuses aient ce type de responsabilité. Et on pourrait encore citer beaucoup d'autres choses. C'est une femme moderne, Thérèse Couderque.
C'est vraiment une femme moderne. Alors, moi, je vais plutôt l'appeler Mère Thérèse, parce que je suis très proche d'elle, mais c'est la même. Hein, c'est Sainte Thérèse Couderque. Elle est née en Ardèche, dans un petit village d'Ardèche, dans le sud de l'Ardèche. Et très vite, elle a eu cet appel pour suivre le Seigneur. Et
famille très nombreuse.
Famille très
ça
nombreuse.
Ça permet de resituer un peu l'époque.
Elle n'a pas pu partir tout de suite parce qu'il fallait qu'elle s'occupe du dernier-né. Enfin bon, mais son père a fini par la laisser partir. Et elle s'est donc, comme vous avez dit, elle s'est très vite retrouvée à la tête d'une petite communauté pour accueillir des femmes qui venaient en pèlerinage pour Saint-Jean-François Régis à Lalouvet, qui est un village de l'Ardèche du Nord. Et en fait, elle a pressenti qu'il fallait donner autre chose que de l'accueil, simplement le gîte et le couvert à ces femmes, qu'il fallait aussi les aider à prier. Et au même moment, le père Étienne Terme, qui l'a appelée à Lalouvet, voulait rentrer chez les jésuites.
C'était le prêtre qui était sur place. Hein.
Voilà, c'est ça. Et il voulait rentrer chez les jésuites et il a fait l'expérience des exercices. Et quand il a fait l'expérience des exercices spirituels de Saint Ignace, donc cette manière ignatienne de trouver Dieu dans sa vie, il l'a dit à Thérèse Couderque, mais regardez, j'ai un outil magnifique pour aider les personnes. Et donc il a d'abord fait faire les exercices aux sœurs du Cénacle, enfin qui n'étaient pas encore les sœurs du Cénacle à ce moment-là.
Donc Thérèse et deux autres jeunes religieuses.
Voilà, et peu à peu... Les femmes qui venaient après en pèlerinage à Saint-Jean-François-Régis, à Lalouvet.
C'est un lieu qui existe toujours d'ailleurs.
Oui, avec un pèlerinage. Et maintenant, il y a deux saints dans ce tout petit village d'Ardèche. Il y a Saint-Jean-François-Régis et Thérèse Couderque dans la basilique de Lalouvet. Il faut y aller.
Alors donc, c'était pas si fréquent que ça, à l'époque, qu'on confie à une femme, une religieuse aussi jeune, la responsabilité de donner comme ça des exercices spirituels.
Non, c'est assez moderne, comme vous avez dit. Ça n'existait pas. Les exercices n'étaient pas donnés par des femmes. Mais donc là, en fait, elle notait tout. Enfin, on a des archives qui sont remarquables où tout est écrit à la main, tous les points, toutes les les méditations sont préparées par elle pour les donner aux femmes.
Alors, comme toutes les saintes, elle s'est illustrée, semble-t-il, par son humilité et son rayonnement.
Oui.
J'ai vu deux passages de sa vie. Pendant 10 ans, d'abord, la fondatrice est restée cantonnée dans des travaux de jardin et de ménage. Voilà ce que dit sa biographie, s'enfonçant dans une vie d'humilité qui révélera peu à peu sa vie profondément mystique et rayonnante.
En fait, elle a été mise à l'écart par une intrigante qui est arrivée, qui a voulu prendre le pouvoir, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, qui s'est imposée parce qu'elle avait de l'argent. Donc, comme il y avait des problèmes d'argent au début de la fondation, cette femme a séduit un peu tout le monde, elle s'est retrouvée à la tête et en fait, ça n'a pas marché. Elle a écarté Thérèse Couder et quand Mère Thérèse est revenue, elle n'a pas voulu. Elle a invité ses sœurs à élire une autre supérieure générale et elle est vraiment restée en retrait. Et peu à peu, on a redécouvert combien elle était importante au niveau de la fondation du Cénacle. Elle a pris des initiatives importantes.
Que peut-on raconter d'autre sur sa vie ? J'ai vu qu'aussi il y avait, il était rapporté ses propos. Donc c'est dans un article du journal La Croix écrit par Claire Le Segrétin qui date de 2005, à l'occasion, je crois, d'un anniversaire, oui.
le bicentenaire.
De votre fondatrice. Cite comme ça une petite fille qui s'est rendue sur la tombe de Thérèse Couderc et qui disait, qui avait laissé ce Fioretti, s'intéresse, je suis venue pour vous remercier car l'an dernier j'étais venue vous demander que papa revienne à la maison, il est revenu. Et la journaliste de dire une prière qui ressemble un peu à ce qu'était cette femme ou à votre spiritualité, oser demander, savoir remercier, c'est-à-dire quelque chose de comme un esprit d'enfance aussi, c'est on
peut
dire ça.
Oui, il y a beaucoup de simplicité, d'humilité. On est vraiment, enfin, quand on suit Mère Thérèse, on est vraiment dans l'action de grâce. Et elle a une manière très belle de trouver Dieu en toute chose et de trouver la bonté de Dieu, c'est ce terme de bonté qu'elle trouve en toute chose. Et justement, je pourrais vous lire un petit passage au milieu d'une de ses lettres où elle raconte la vie elle est à Montpellier à ce moment-là. Elle écrit à sa supérieure générale, elle raconte l'activité de la maison tout simplement avec les retraitants, etc. Elle donne des nouvelles des santé et puis tout d'un coup, elle dit je meurs de confusion quand je médite leur vie. Bon, à propos de tous les saints, c'est au milieu d'un quotidien. Et puis tout d'un coup, elle dit j'ai eu il y a quelques jours une vue qui m'a bien consolée. C'était pendant mon action de grâce que je fis quelques réflexions sur la bonté de Dieu et comment ne pas y penser dans ces moments-là à cette bonté infinie, bonté incréée, source de toutes les bontés. Et elle voyait ce mot de bonté écrit sur toutes les choses animées ou inanimées jusqu'au prie-Dieu sur lequel elle était assise. Donc il y a une manière
de voir Dieu
en toute chose et c'est à ça qu'elle nous invite vraiment. Trouver Dieu dans son quotidien et le voir en toute chose.
Est-ce que Christine Garrig ou Elisabeth Rouanet, vous êtes allées sur la tombe déjà de cette fondatrice en Ardèche, Sainte Thérèse Couderc ?
Non, moi je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais ça se fera un jour.
Et vous ?
Oui, oui, je suis déjà allée une fois.
Et alors, quel souvenir vous en avez ? C'est quoi ? C'est tout simple ou c'est...
Ben, on aime bien revenir dans le lieu où la personne a vécu. Donc on comprend mieux, d'abord par l'aspect de la campagne, de cette richesse qu'il y a autour, et de voir la manière dont elle a vécu. Et là, ça vous donne autre chose, une autre grandeur.
C'est comme Sainte Bernadette. C'est vrai que quand on va se promener sur les lieux de sa vie à Lourdes, ou quand on voit cette religieuse qui aujourd'hui est à Nevers, la beauté de son visage et sa simplicité, même post-mortem, c'est vrai que ça dit quelque chose de la vie de cette sainte. Alors si on vous deviez présenter maintenant un petit peu plus les sœurs de Notre-Dame du Cénacle, donc vous êtes une congrégation religieuse. J'ai vu que, en tout cas en 2011, vous aviez encore près de 500 religieuses réparties dans 72 maisons. Donc vous êtes en France, mais aussi en Amérique, Brésil, Canada, États-Unis, en Asie, en Afrique et un petit peu même, j'ai vu, en Océanie. Hein, c'est vrai ?
Oui, oui.
Voilà, Océanie, Australie et Nouvelle-Zélande. Elles ont bien de la chance d'être là-bas. qu'est-ce que vous diriez de cette congrégation ? Parce que des congrégations, il y en a beaucoup. J'ai compris que vous, évidemment, vous viviez de la spiritualité ignatienne. Alors, on trouve sur votre site vos points forts, les grands aspects de votre spiritualité, la méditation et la contemplation, l'accompagnement spirituel, et puis proposer en fait des temps forts, des temps de retraite et des temps de relecture. Est-ce bien cela ?
Oui. Ce qui nous porte, c'est d'aider les personnes à trouver Dieu dans leur vie. Après, ça va être par n'importe quel moyen. Ça va être l'accompagnement spirituel, des retraites. On peut aussi organiser des pèlerinages, travailler la Bible. Voilà, il va toute chose qui permet à la personne de rencontrer le Seigneur dans sa vie.
Alors on dit aussi que votre fondatrice, non seulement elle était nourrie de la spiritualité ignatienne, mais aussi de ce qu'on appelle l'école française. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots de ce que c'est l'école française?
L'école française, c'est Cardinal de Bérulle, je ne connais pas bien encore ça. Je suis plus nourrie, moi, par la spiritualité ignatienne et par la spiritualité propre de Sainte Thérèse Coudert, qui avait sa propre spiritualité. Donc l'école française, c'était ce qui existait traditionnellement à l'époque.
Voilà, une école de spiritualité, on va dire pour tous aussi, pour les laïcs, en tout cas ça a initié ça en France. Alors si on se penche un peu plus sur votre charisme, on imagine qu'en fait, et c'est ça la beauté de la vie de l'Église, c'est qu'il y a de multiples congrégations religieuses. On peut se dire qu'à chaque fois c'est la même chose avec un nom différent, mais souvent c'est pour souligner quand même une pointe de la vie évangélique ou un aspect particulier. Vous, si vous deviez expliquer quel est le charisme de votre communauté, comment vous l'expliqueriez?
Ben, il est tout dans son nom, Notre-Dame du Cénacle. Le Cénacle, c'est vraiment ce temps entre le jeudi de l'Ascension et le lundi de la Pentecôte, et où les apôtres sont avec Marie en train d'attendre l'Esprit-Saint pour annoncer le Christ au monde. Donc c'est ce temps d'attente de l'Esprit pour recevoir une force, pour être envoyé. Donc notre charisme, ça va être d'aider les personnes à écouter comment l'Esprit travaille en eux pour, c'est toujours pour aller ailleurs, pour être envoyé, pour annoncer.
Est-ce que ça a des manières de se manifester dans votre vie communautaire? Je ne sais pas, il y a une place importante laissée à la méditation de la parole de Dieu
Nous prions chaque jour le bréviaire, la liturgie des heures, et puis nous avons aussi un temps de prière personnelle. Nous sommes aussi invités à prier Marie, et ça va être une manière personnelle de le vivre, mais on va aider les personnes à prier aussi. On va leur apprendre à prier. On a une proposition qui s'appelle les lundis pour Dieu ou la retraite dans la vie, où là on va les personnes viennent chez nous pour être confrontées un petit peu à la parole de Dieu et découvrir comment la parole leur parle. Et on va les aider à prier ensuite, avoir un temps de prière avec la parole. On les accompagne dans la prière.
On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver après justement pour essayer de comprendre ce que c'est que ce discernement, enfin ce qu'est la spiritualité ignatienne, hein, consolation, désolation, la manière que vous avez d'essayer de conduire les gens à travers différents exemples, les gens qui frappent à votre porte, découvrir donc les traces et la présence de Dieu dans leur vie. Une phrase avant de faire cette première pause musicale qu'on trouve sur votre site internet, vivre au Cénacle, c'est s'engager avec ferveur à habiter et maintenir au présent ce temps particulier entre l'Ascension et la Pentecôte.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
La découverte des Sœurs du Cénacle, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Nathalie Albert, religieuse de la communauté des Sœurs de Notre-Dame du Cénacle, Elisabeth Rouanet, qui est membre de la fraternité de la fraternité du Cénacle, et Christine Garry, qui est amie et collaboratrice de la communauté. Comme je vous le disais, sans surprise, à la fin de cette pause, faites-nous voyager un petit peu, Sœur Nathalie Albert. Comme beaucoup de ces congrégations, vous êtes donc en France, mais aussi un peu partout dans le monde, donc Amérique, Asie, Afrique, Océanie. Est-ce que vous êtes allée en Australie, en Nouvelle-Zélande ?
Non, j'ai pas eu la chance d'aller aussi loin, mais presque, parce que je suis allée jusqu'à Manille, où j'ai eu la chance de rencontrer nos sœurs des Philippines. Même il y avait même des sœurs de partout dans le monde puisqu'il y avait, c'était une rencontre internationale, donc
vous êtes combien, il y a combien de religieuses là-bas, il y a quoi, trois communautés,
une trentaine de sœurs je pense.
Et vous étiez à Rome il n'y a pas très longtemps.
Voilà, et à Rome aussi, où j'ai eu la chance de retrouver les sœurs que j'avais vues à Manille l'année dernière. Certaines étaient là aussi à Rome, donc des sœurs d'Amérique, des sœurs du Madagascar, des sœurs du Togo, d'Irlande, d'Angleterre, d'Italie. Enfin, voilà. Le monde entier se rassemble à Rome très souvent et je trouve que c'est une belle chance. Ça, j'ai jamais tant voyagé que depuis que je suis sœur.
Ça, c'est l'immense richesse quand même de ces congrégations apostoliques, souvent qui ont essaimé un peu partout dans le monde. Alors maintenant, si on se penche donc sur la spiritualité ignatienne, je me suis dit qu'il fallait que vous nous aidiez à comprendre ce que c'était que le trésor de cette spiritualité et donc ce que vous vivez au long de la plupart de vos propositions. On trouve un certain nombre de choses, entre autres sur votre site internet. L'idée, c'est d'aider les personnes à grandir dans une plus grande liberté vis-à-vis de leurs goûts, de les aider dans leur choix de vie, de leur apprendre à discerner quelle est la volonté de Dieu pour elles-mêmes, et à découvrir, même ai-je lu, donc le plan de Dieu sur elles, de bonheur, ou en tout cas le chemin de bonheur qu'il leur propose. Comment vous présenteriez de manière simple, déjà, hein, en résumé, le trésor de cette spiritualité ?
Ben, en fait, c'est né avec donc Saint Ignace de Loyola, qui est un chevalier de la fin du XVe siècle, et qui a été blessé lors du siège de Pampelune. Et pendant qu'il était en convalescence, il a demandé à lire des romans de chevalerie. Il n'y en avait pas là où il était, et il s'est retrouvé avec La vie du Christ, L'imitation de Jésus-Christ, et puis Une vie de Saint François et de Saint Dominique. Et en lisant ces ouvrages, il s'est rendu compte qu'il éprouvait beaucoup de joie, une joie qui durait quand il pensait qu'il allait faire comme Saint François, comme Saint Dominique. Et quand il pensait à aller sauver la dame de ses rêves, etc., il avait une joie qui durait uniquement le temps d'y penser. Après, ça s'effondrait, quoi. La joie ne tenait pas. Donc il a pris conscience qu'il y avait une alternance, enfin pas une alternance, mais des joies différentes. Il y avait des joies très ponctuelles et puis il y avait des joies qui duraient. Et puis donc il a travaillé ça, et il a pris conscience qu'il y avait des esprits qui jouaient sur notre manière d'être, enfin voilà, ce qui nous faisait avancer,
ce qu'on appelle les consolations et les désolations.
Oui, enfin c'est plus subtil que ça, consolation et désolation. En fait, quand il a été guéri, il s'est rendu compte qu'il voulait vivre comme Saint François et Saint Dominique, et il est parti en pèlerinage. Il voulait partir en pèlerinage à Jérusalem. Il s'est arrêté sur son chemin. Il s'est arrêté à Morez, et à Morez, il a pris conscience qu'il y avait des esprits qui nous, en Espagne, hein, Morez en Espagne, des esprits qui nous tiraient vers le haut et des esprits qui nous tiraient vers le bas. Et en fait, donc ces consolations et ces désolations.
Alors ces esprits, que sont-ils ? Peut-être faut-il le préciser aussi pour ceux qui.
Le bon esprit et le mauvais esprit. Et en fait, il y a des choses qui nous sont.
Donc les forces du bien, les forces du mal, c'est comme ça qu'on pourrait dire ça ?
C'est encore plus compliqué que ça, parce qu'il y a des choses qui sont extérieures à nous et des choses qui sont intérieures à nous. Donc en fait. Si je pense à la liste de courses pour là, c'est quelque chose qui m'est propre, c'est l'esprit qui m'est propre, il n'y a pas de bon ou de mauvais esprit. Mais si je suis en train de prier et que je suis emmenée sur des mauvaises pensées, ça va être quelque chose qui va venir de l'extérieur et qui va me tirer vers le bas, vers des mauvaises pensées. Tandis que, et la difficulté, c'est d'entendre que le bon esprit va nous retenir, va nous empêcher de descendre. Donc quelquefois, il nous fait du mal. C'est l'aiguillon dont parle saint Paul, en fait, dans ses lettres. Et quelquefois, le bon esprit va nous pousser vers le haut. Donc là, au contraire, on va trouver de l'enthousiasme et ça va être beaucoup plus facile de faire un tas de choses.
Quel est tout le propos de ce chemin? Je disais, c'est de devenir toujours plus libre, c'est de découvrir le plan de bonheur que Dieu a pour nous. Comment vous expliqueriez ça simplement?
Plus on va comprendre comment on fonctionne, comment l'esprit travaille en nous, qu'est-ce qui nous aide pour pouvoir agir, pour passer à l'action. Plus on va avancer sur ce chemin de bonheur dont vous parlez. Voilà, ça va vraiment être de se détacher de ce qui n'y avait pas bon pour moi pour pouvoir être plus orienté et tourné vers Dieu.
Christine Garrigue, vous avez découvert donc la spiritualité ignatienne en fréquentant les Sœurs du Cénacle.
Oui.
Ça a été pour vous un peu une révélation d'apprendre à jouer du piano comme ça et
Oui, la révélation, ça a été aussi, c'est tout à fait ce que Sœur Nathalie disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est cette découverte d'actions de grâce continuelles de Dieu, de dire, il est présent dans nos vies. Et puis c'est un peu ce que, quand vous parliez tout à l'heure, c'est cette idée de relation continuelle à Dieu, c'est-à-dire ce côté d'esprit bien, mauvais. L'esprit bon, c'est celui qui va renforcer cette relation à Dieu.
C'est-à-dire que maintenant, vous avez l'impression que vous apprenez à en vivre comme ça au quotidien, à reconnaître en fait la présence
grâce,
de Dieu dans votre vie.
À rendre grâce chaque jour en disant là, je rends grâce à Dieu parce que ce qui vient de se passer, je trouve que il y a son empreinte, il y a lui qui est derrière cet événement.
Il faut combien d'années pour arriver à jouer du piano comme ça sur Nathalie Albert?
Toute la vie. Il faut toute une vie. Mais justement, Ignace, il parle d'exercice spirituel. Donc, c'est comme un sportif. Il faut s'entraîner. Je dirais, au début, on ne va pas courir le marathon d'un coup, quoi. Mais après, une fois que ça devient de plus en plus facile et on repère de plus en plus, de plus en plus facilement les traces de Dieu dans sa vie. Il y a un exercice qui est facile à vivre pour chacun. C'est de prendre le temps de s'arrêter chaque soir, de prendre 5 minutes pour regarder sa journée et voir toutes les fois où Dieu a été présent et a donné quelque chose de bon.
Alors comment on fait pour reconnaître dans ces cas-là?
On s'assoit et puis on prie, on demande à l'Esprit Saint de venir
et
d'éclairer.
À quelle trace reconnaît-on? J'ai vu que pour les consolations, dans ma petite antisèche trouvée sur un site jésuite, les consolations provoquent en nous un dynamisme.
C'est ça,
ou alors des consolations, elles augmentent en nous la foi, l'espérance et la charité.
Voilà, tout d'un coup je vais découvrir qu'il y a quelque chose qui est plus facile, ou une personne que j'ai rencontrée pour laquelle je craignais un peu, et puis finalement ça a été très facile. Voilà, c'est la trace du
donc
bon esprit.
Donc tout le monde peut le soir relire sa journée et essayer de voir les traces de Dieu dans sa vie.
Quel que soit notre degré de prière, j'ai envie de dire, première dan ou deuxième dan ou pas de dan du tout, peu importe. On peut s'asseoir sur le bord de son lit chaque soir et prendre le temps de regarder comment Dieu, où d'abord, et comment Dieu a été présent dans ma vie.
Alors si maintenant on doit parler un peu des désolations, sur ma fiche, je vois aussi la chose suivante. Souvent c'est à l'inverse, c'est une envie de ne rien faire, une forme de désespérance, de multiples raisons qui nous embrouillent, nous empêchent d'agir, on se déprécie, on se trouve nul, c'est ça en fait les désolations?
Voilà, c'est quand on n'a plus confiance en soi, et du coup on n'a plus envie de rien faire, on n'avance plus. Le mauvais esprit, il va nous empêcher de faire des bonnes choses pour aller vers le Seigneur. Mais quelquefois, c'est là où il y a un petit piège, c'est que quelquefois le bon esprit va nous empêcher aussi de faire des choses. Parce que c'est pas bon.
Par exemple vous avez beau être 7e dame, il faut nous expliquer. Parce que nous, on est juste ceinture blanche, donc il ne faut pas nous perdre sur le tatami en cours de route. Là.
Non, mais on peut avoir... j'ai pas d'exemple.
Vous n'avez pas d'exemple. Alors du coup, je vais vous aider. Pour les désolations, c'est pareil, j'ai lu la chose suivante. Il y a des manières de réagir. Pour les consolations, il est dans la spiritualité ignatienne, on incite à rendre grâce, comme disait Christine Garrigue, à continuer de prier, à ne pas se glorifier d'avoir ressenti cet élan, et puis à continuer à prendre des forces régulièrement dans la prière. Et je lis, pour les désolations, ne pas dramatiser, Essayer de, comment dire, de, dans les moments de découragement, de difficulté, de revenir à des phrases du Christ, à des phrases de l'Évangile, voilà, ne pas abandonner la prière, et puis savoir un certain nombre de choses, c'est pas dans les désolations qu'il faut changer d'avis,
voilà,
ou modifier
son... Voilà, on garde le cap.
Garder le cap. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, autre conseil comme ça que vous donnez aux ceintures blanches et ceintures jaunes que nous sommes?
C'est tenir dans la prière, s'en remettre au Seigneur. Et vraiment, oui, ce que vous venez de dire là, c'est le plus important, c'est de ne rien changer en désolation. C'est le moment, c'est pas le moment où on prend des décisions. Je sais pas, parce que si j'ai pris une décision et que je vais pas bien, je dois garder le cap que j'ai fixé. Si j'ai décidé de prier tous les jours et que je n'arrive plus à prier, c'est pas pour autant que je dois m'arrêter de prier.
Voilà, rester patient, la consolation reviendra, s'ancrer davantage dans la prière, se changer soi-même et en parler à quelqu'un. Alors ça, on va en parler de l'accompagnement.
Oui.
Est-ce que vous pouvez prendre quelques exemples parmi les activités que vous avez et puis quelques souvenirs de visages ou de personnes que vous avez rencontrées qui permettraient d'illustrer de manière assez frappante l'intérêt d'apprendre à discerner comme ça les esprits dans sa vie?
Dans les exemples avec la communauté, on a deux activités en particulier, enfin plusieurs, mais j'ai envie de vous évoquer la retraite dans la vie, qui est une manière de vivre les exercices spirituels de Saint Ignace, mais tout en restant dans son quotidien. Voilà, une retraite, c'est un temps de retrait pour mieux découvrir le Seigneur. Alors, il y a des personnes qui vont aller dans des monastères ou dans des maisons, là, mais quelquefois, on n'a pas les moyens et financiers, parce que ça, finalement, ça coûte cher d'aller passer une semaine dans un monastère, soit financier, soit de temps, parce qu'on travaille. Donc, la retraite dans la vie, ça va être une manière de faire des exercices au long cours. Ça va durer plusieurs mois, avec une rencontre tous les 15 jours avec un groupe. On a des enseignements, des points pour prier, des manières de faire pour prier, et puis alterner avec l'accompagnement personnel. Donc ça, ça va être un moyen concret d'ordonner sa vie pour mieux découvrir le Christ.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple d'une retraitante ou d'un retraitant qui vous reviendrait, ou vous avez souvenir comme ça d'un chemin qu'il a fait et de choses qu'il a découvert dans sa vie, sans donner de nom évidemment, mais...
Oui, alors ça serait dans le cadre d'une retraite plus à la maison, quoi. Pas retraite dans la vie, une retraite au long cours sur une semaine. Vous parlez d'un homme qui se posait la question de changer, de déménager. Il avait une promotion professionnelle. Et cette promotion professionnelle, donc, le contraignait à déménager, à refaire une vie complète avec sa femme et ses enfants. Donc, il fallait alors qu'ils étaient très bien là où il était. Donc, il a discerné, il a pris une semaine de retraite pour savoir, un petit peu, pour essayer de trouver s'il fallait qu'il accepte cette promotion et qu'il recommence avec des jeunes enfants, recommencer une vie ailleurs, ou s'il restait là où il était en choisissant de ne pas accepter cette promotion.
Et donc ?
Il est resté.
D'accord.
Il n'a pas déménagé.
Mais donc en quoi le travail de retraite l'a aidé ? C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il a juste pris du recul et qu'il a réfléchi.
Oui, mais il a compris où était son bonheur, il a compris l'importance... ce qu'il a relu, c'est l'importance de la vie de ses enfants à l'école, la structure. Il avait déjà déménagé avant, enfin, donc c'était un peu difficile pour lui à l'idée de
Donc là, c'est en faisant un travail de relecture sur consolation, désolation ou sur certaines paroles de Dieu qui l'ont éclairé, c'est ça ?
C'est-à-dire qu'il a pris conscience qu'il avait plus de joie, une joie qui dirait et qui s'enracinait, quand il se projetait dans une perspective où il restait là où il était, où il renonçait à cette promotion. Voilà, qui était finalement centré sur lui, la promotion. Tandis que son objectif d'une vie de famille, avec ses enfants, son épouse, c'était là qu'il trouvait sa joie. Et que de grandir professionnellement, lui donnait certes une satisfaction personnelle, mais ne correspondait pas à son projet familial.
Alors j'aimerais, avant qu'on fasse une deuxième pause, de parler un petit peu de l'importance donc de l'écoute et de l'accompagnement. J'ai souvenir d'invités qui souviennent souvent sur ce plateau, en fait, disent l'importance, l'urgence et le grand besoin que les gens aujourd'hui ont d'être écoutés. Entre autres, je me souviens du curé de la paroisse étudiante qui dit que la paroisse étudiante en est à réfléchir, même à avoir comme un pôle, en fait, d'écoutant ou d'accompagnant. Vous, c'est ce qui vous frappe, par exemple, vous et vos sœurs, ici à Toulouse, il y a un besoin d'écoute et d'accompagnement très important?
Oui, je crois que écouter vraiment, c'est capital. En fait, je crois que dans une vie où aujourd'hui on va très très vite, on zappe beaucoup, on passe d'un livre à l'autre, on passe d'une chaîne à l'autre, on ne prend plus le temps de s'arrêter et d'écouter profondément ce qui se passe. Dans le travail, dans le métro. Là, quand on a pris le métro pour venir, c'était les gens sont sur leur téléphone. Il y a plus de communication, etc. Donc, pour moi, ce temps d'écoute, et c'est notre première mission, c'est d'écouter les personnes pour les aider à trouver Dieu dans leur vie, à unifier leur vie. Ça devient, c'est urgent de prendre le temps de parler, d'écouter pour construire un chemin. Parce que pour aller quelque part, il faut savoir où on est, donc faire le point de temps en temps. Voilà. Alors, c'est pas une psychothérapie. Hein. Nous, quand on écoute des personnes, on n'est pas des psychothérapeutes, mais on les aide à baliser une route pour trouver Dieu, quoi. Construire un chemin avec le Seigneur. On n'est pas là pour les conduire non plus. Hein. C'est pas, on n'est pas devant à leur montrer la route. On n'est pas derrière à les pousser.
Vous êtes là pour les aider à découvrir qu'ils sont sur un chemin et puis pour leur donner des outils pour avancer.
Alors, quand j'explique un peu ce que c'est que l'accompagnement aux personnes, je leur dis, ben voilà, moi je suis à côté. Donc je suis sur le même chemin que vous et je regarde dans la même direction, mais je n'ai pas tout à fait le même angle de vue. Parce que je suis pas dans vos yeux, je suis juste à côté. Donc quelquefois je vois les trous que vous ne voyez pas, je vois les allées droites que vous ne voyez pas. Voilà, l'accompagnement permet d'aider à voir. Voilà, on est la figure de Jean-Baptiste est une belle figure de l'accompagnateur. C'est celui qui montre. C'est pas celui qui dit allez-y ou il dit voici l'agneau de Dieu. Voilà. Et l'accompagnateur il est un peu le Jean-Baptiste d'aujourd'hui.
Allez, une petite question pour les deux autres invités avant qu'on fasse une deuxième pause et puis qu'on vous laisse un peu plus la parole, que vous nous racontiez un peu ce que ces sœurs vous ont apporté, qu'est-ce que ça a changé dans vos vies de les rencontrer. Est-ce que vous êtes senti, on va dire, accueilli et écouté quand vous avez découvert les sœurs du Cénacle, Elisabeth Rouanet?
Oui, avec les sœurs du Cénacle, j'ai beaucoup appris. Appris, comme elle me disait, et savoir écouter les autres. Savoir surtout...
C'est pas naturel de savoir écouter les autres.
Non, mais accepter d'être différent des autres et essayer de voir leur point de vue. Se mettre, pas à leur place, mais quand on connaît mieux les personnes, on arrive à les respecter, à être différent et à voir la personne sous un autre angle.
Christine Garrigue, même question, avant qu'on fasse une deuxième pause, est-ce que ça vous a appris à... Est-ce que vous êtes sentie écoutée pour commencer?
Ah oui, tout à fait, l'écoute bienveillante, ça c'est très important, et même je dirais que ces balises qu'on a eues, comme vous disiez, on peut devenir nous-mêmes balises et voire même relais, puisqu'on ne reste pas forcément une balise pour la vie, mais on fait le relais vers d'autres personnes. Parce que c'est de relation aux autres, c'est aussi l'image de la relation qu'on a avec Dieu.
C'est-à-dire que vous finissez vous-même par accompagner, c'est ça que vous voulez dire, par personne relais?
Voilà.
Par écouter, par accompagner?
Et par accompagner nous-mêmes, oui.
Allez, on va faire une pause et puis on va vous retrouver pour nous vous raconter un petit peu quelques tranches de vos vies.
À Cahors, 92.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
À la découverte des Sœurs du Cénacle, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Nathalie Albert, religieuse de la communauté des Sœurs de Notre-Dame du Cénacle, Elisabeth Rouanet, membre de la fraternité du Cénacle, et Christine Garrigue, amie et collaboratrice de la communauté. Alors comme souvent dans ces émissions, à la fin de l'émission, donc on laisse plus de place au témoignage. On va commencer avec vous, Christine Garrigue. Vous allez nous raconter comment vous avez rencontré ces sœurs. Et puis après, on essaiera de voir un peu ce qu'elles vous ont apporté. Mais semble-t-il, la rencontre déjà a quelque chose d'important pour vous a été importante.
Oui, les sœurs, je les ai rencontrées au niveau des messes dominicales à Sainte-Thérèse.
Donc Sainte-Thérèse, c'est une paroisse à Toulouse.
Et les sœurs, on discutait après la messe, et puis une des sœurs m'a proposé d'être avec elle pour accompagner les personnes en deuil. Et c'est comme ça que j'ai mis un peu le pied au Cénacle, c'est le coup de dire, et que nous avons commencé ensemble, à la fois pour moi formation et rencontre, avec des personnes en deuil, et donc là où vraiment l'écoute est bienveillante, l'accueil, le respect de la différence... était vraiment premier pour que ces personnes se sentent à l'aise, ou faut reconnaître quand même parfois un peu éloignées de l'Église, mais désirant quand même d'avoir un accompagnement religieux pour le défunt.
Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous avez connu les sœurs du Cénacle ? Je ne sais pas, il y a des choses comme ça, si vous deviez de l'extérieur les présenter, qu'est-ce qui vous a frappé chez elles ?
Elles sont très, très rigolotes. Toujours gaie. Alors, je pense que c'est ce fait de rendre grâce à Dieu et de sentir Dieu toujours là, ouvre cette perspective d'avoir un bonheur, en fait, de dire chaque rencontre, c'est un bonheur en plus. Et ça, c'est vraiment la chose qui m'a frappé le plus.
Alors, si vous faites maintenant un petit travail de relecture, ça fait 10 ans que vous les fréquentez. Qu'est-ce que vous avez vécu avec elles ces 10 dernières années? Et puis, rétrospectivement, qu'est-ce que vous avez appris à leur côté?
Alors déjà, cette formation pour accompagner les personnes en deuil, c'était très important. Puis ça m'a permis de connaître d'autres sœurs, des sœurs qui sont maintenant peut-être parties, mais qu'on continue à voir ou à communiquer par Internet. Et puis il y a les nouvelles sœurs qui sont arrivées. Donc c'est un éternel, des éternelles rencontres au Cénacle pour justement rencontrer ces sœurs qui arrivent, d'autres qui partent. Et c'est un enrichissement parce que c'est des rencontres continuelles avec d'autres personnes qui sont différentes. Et donc ça permet...
Alors ça, l'enrichissement, on peut se dire que dans toute communauté chrétienne, on vit une forme d'enrichissement.
Oui, puis avec toute forme de rencontre aussi.
Essayez de préciser un petit peu ce que vous avez vécu avec elle, hormis cet accompagnement dans la pastorale des funérailles.
Alors,
est-ce que vous avez vécu d'autres choses?
Oui, il y a eu le partage avec d'autres sœurs sur justement ce dont parlait Sœur Nathalie, les lundis pour Dieu. Alors les lundis pour Dieu, où on parle sur un thème d'un texte biblique. Je me souviens d'un thème sur la création où on a partagé avec des personnes qui étaient venues lors de cette soirée pour discuter un petit peu à bâton rompu sur ce thème, tout en ayant comme base un texte biblique. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est à la fois un échange et puis à la fois une méditation aussi, puisqu'on médite sur le texte, on prie sur ce texte, et puis une ouverture à qu'est-ce que ce texte aujourd'hui va me dire, va m'apprendre.
Est-ce que vous êtes essayé à des propositions plus au long cours, comme l'accompagnement, si c'est pas indiscret, ou comme des temps de retraite plus longs?
Non, pas des temps de retraite, parce que actuellement, je n'ai pas la possibilité de me rendre disponible pour ces temps un peu plus longs, mais ça m'est arrivé de suivre, par exemple, des étudiants, discuter avec des étudiants. Vous savez, il y a une soif, en fait, il y a une soif de connaissance sur... Je connais un peu plus la Bible, donc je parle de la Bible, mais il y a une soif de connaissance, que ce soit des jeunes ou des personnes rencontrées, ont ce besoin, en fait. Alors, d'où vient l'écoute, un peu, que disait Sœur Nathalie?
Est-ce que vous-même, vous avez fait l'expérience de l'accompagnement avec les sœurs du Cénacle?
Oui, c'est plutôt un accompagnement. Alors c'est toujours un accompagnement, mais c'est aussi un partage. C'est le partage, un partage pendant un repas, on discute de l'Église d'aujourd'hui.
Voilà,
c'est pas
l'accompagnement au sens propre.
C'est pas l'accompagnement au sens propre, mais on apprend quand même beaucoup de choses.
Alors Elisabeth Rouanet, donc vous êtes membre de la fraternité du Cénacle. Peut-être en deux mots, Sœur Nathalie Albert, c'est quoi les fraternités du Cénacle?
Fraternité du Cénacle.
Ou non, allez-y, pardon.
Allez-y. La fraternité du Cénacle, ce sont des laïcs, hommes ou femmes, qui se réunissent et ensemble, le lien avec les sœurs du Cénacle.
Voilà, donc c'est une forme de fraternité donc pour laïcs. Alors juste, comment vous les avez rencontrés, vous? Et puis pareil, quelle première impression vous avez eue quand vous les avez rencontrés?
Je les ai rencontrés lors de la catéchèse, une sœur du Cénacle qui nous faisait des cours de sur un sujet donné. Et donc là, j'ai appris que le Cénacle existait.
Ah, et quelle impression elles vous ont faite la première fois où vous les avez vues? Quel souvenir vous en avez?
D'être des personnes très modernes.
Plus que ça.
Très modernes et qui étaient vraiment bien dans ce qu'elles faisaient. Et on avait envie de savoir en savoir un peu plus.
Alors vous me disiez en préparant l'émission que pour vous, de ce compagnonnage avec les sœurs du Cénacle, c'était comme, si vous regardez dans le rétroviseur, être passé d'une foi d'enfant à une foi d'adulte. Est-ce que vous nous expliquez ça?
Oui, lorsque je faisais la catéchèse, j'avais des enfants qui préparaient la communion solennelle. Et à ce moment-là, pour leur donner envie d'apprendre autre chose, parce qu'ils étaient très... je leur avais dit que...
Allez-y, continue.
Pardon. Je leur avais dit que quand on était enfant, qu'on recevait le baptême, on avait un petit vêtement qui nous correspondait très bien, et que lorsque l'on arrivait à l'âge un peu plus adulte, on était obligé de changer de vêtement. Et la foi, c'était exactement la même chose, identique. On est obligé d'apprendre un peu plus pour être beaucoup plus...
Beaucoup plus mûr dans sa foi.
Voilà,
pour être plus mûr dans sa foi. C'est le chemin, vous avez l'impression, que vous avez fait donc avec les sœurs. Alors, si vous deviez nous présenter un petit peu plus donc, cette fraternité de laïcs, fraternité du Cénacle, je ne sais pas à quoi on s'engage quand on fait partie d'une fraternité comme ça, qu'est-ce qu'on essaie de vivre?
C'est-à-dire, c'est un groupe de personnes qui, avec une sœur accompagnatrice, on se réunit une fois par mois et on travaille sur un texte.
Ensuite, on essaie d'avoir une vie de prière, c'est ça, personnelle?
On essaie d'avoir une vie de prière personnelle, écoute à la parole, l'Eucharistie et surtout une relecture de vie.
Et pour finir, vous me disiez en préparant l'émission que c'est comme, pour vous, c'est comme une seconde famille, c'est ça, vous diriez? Enfin, il y a un vrai esprit fraternel à l'intérieur de cette fraternité?
Il y a un esprit fraternel pour nous. Pour mon mari, pour les parents, on est très très soudés. On a des temps forts pour accepter toute la famille. Pardon.
Est-ce que vous auriez des exemples comme ça de qui disent un petit peu ces liens fraternels forts que vous essayez de vivre entre vous?
Oui. En ce moment, on a une personne de notre groupe qui a eu une opération. Donc, on essaie toutes, à tour de rôle, d'être présentes auprès d'elle pour l'aider à passer le cap. Et cela nous apporte énormément.
Sœur Nathalie Albert, un petit mot de la fin après ces deux témoignages. Qu'est-ce que ça vous inspire comme remarque?
Moi, je suis très heureuse d'entendre des manières différentes d'être liées à nous. Avec Christine, avec qui on collabore. Une découverte mutuelle aussi, parce qu'on ne se connaît pas depuis très longtemps maintenant,
oui,
parce que moi ça fait à peine un an et demi que je suis arrivée à Toulouse. Et Elisabeth, que j'avais rencontrée quand j'étais arrivée en 2002 pour mon postulat. La fraternité, ce qu'il y a de beau, c'est que quelle que soit la communauté où on est, il y a toujours une fraternité qui est là. Et même des lieux où la communauté des sœurs n'est plus présente, il y a encore des fraternités, comme à Nice. C'est une autre manière d'essaimer, vous disiez d'essaimer à travers le monde, mais il y a des fraternités dans le monde entier.
En tout cas, dans la région, on peut vous trouver donc à Toulouse. Donc vous êtes 5 rue Lucien Cassagne à Toulouse. On peut retrouver ça facilement sur Internet. Peut-être on peut donner juste ce rendez-vous, les lundis pour Dieu. Donc un lundi par mois de 20h à 22h. C'était cette année, donc d'octobre à mai, mais on imagine qu'il y aura une formule pour l'année prochaine.
Oui, c'est prévu.
Voilà, temps de partage autour de la parole de Dieu, un lundi par mois. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler des Sœurs du Cénacle. Le site internet, vous l'avez en tête ou pas?
ndcénacle.org.
Ndcénacle, tout accroché.
Oui, ndcénacle, Cénacle, avec un C.
Et après, c'est très bien fait. On peut retrouver les communautés près de chez soi, ou en tout cas dans la région Occitanie. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry.
Merci bien.
Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.